Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié à partir de l'édition originale de 1895, ce traité de Schachsteiner appartient au registre du manuel technique et historique consacré à la fabrication des eaux-de-vie. Son objet est très précis, exposer les principes, les matières premières et les étapes de la distillation appliquées à des supports variés comme le vin, le cidre, l'esmarc, les lies, la mélasse, le miel et les fruits à noyaux. L'intérêt du livre tient à sa volonté de couvrir à la fois la logique générale de la distillation et ses usages concrets, avec une approche pratique destinée au lecteur qui souhaite comprendre comment se construit une eau de vie depuis la fermentation jusqu'à l'obtention du produit fini. L'ouvrage se distingue aussi par son ancrage dans les savoir-faire traditionnels, ce qui en fait une source utile pour situer les techniques anciennes dans l'histoire des boissons spiritueuses. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une méthode complète pour passer de la matière fermentée à l'eau de vie. Le livre ne se limite pas à décrire un alambic ou une opération isolée. Il présente la fabrication des eaux de vie comme une chaîne continue qui commence avec la préparation des matières premières et se termine avec la distillation proprement dite. Cette organisation permet de comprendre que la qualité du produit final dépend d'abord de la qualité de la fermentation, du choix des supports et de la maîtrise des transformations préalables. En ce sens, Steiner offre une vision utile pour les lecteurs qui veulent saisir le lien entre biologie, chimie et pratique artisanale. Le texte semble insister sur les étapes successives plutôt que sur des recettes fragmentaires, ce qui donne au manuel une cohérence pédagogique. Pour un lecteur débutant comme pour un praticien confirmé, cette structure a un intérêt majeur, elle permet d'identifier où se produisent les pertes, les défauts ou les améliorations possibles. Le livre présente ainsi la distillation non comme un geste unique, mais comme une technique de précision dépendante de l'ensemble du processus. Deuxièmement, la diversité des matières premières comme principe central du traité, un des traits les plus marquants de l'ouvrage et son champ d'application très large. Steiner ne se limite pas au vin, mais traite aussi des cidres, des marcs, des lies, des mélasses, du miel et des fruits à noyaux. Cette diversité est importante, car elle montre que la distillation peut valoriser des matières très différentes, parfois secondaires ou résiduelles. Le livre a donc une dimension technique et économique, il indique comment transformer des produits disponibles en spiritueux, en donnant une place aux sous-produits de la vinification ou de la sucrerie. Ce choix élargit l'intérêt du traité au-delà du seul univers viticole, il en fait un manuel de valorisation des ressources agricoles, où chaque matière exige une adaptation du procédé. Les lecteurs y trouvent une logique de comparaison entre les supports, utile pour comprendre pourquoi un marc ne se traite pas comme un cidre ou un miel. Cette variété donne au livre sa richesse pratique et explique sa réputation d'ouvrage complet dans son domaine. Troisièmement, le rôle de la fermentation et des réactions chimiques dans la réussite de la distillation. Les résumés disponibles indiquent que Steiner cherche à expliquer simplement les réactions chimiques en jeu. Cela suggère un effort de vulgarisation orienté vers l'efficacité pratique, sans sacrifier les bases scientifiques nécessaires à la compréhension du procédé. Dans un manuel de distillation, cette dimension est essentielle, car la qualité de l'alcool obtenu dépend de phénomènes antérieurs à la chauffe-composition du moût, évolution des sucres, production d'alcool, formation d'impuretés et comportement des arômes. En abordant ces mécanismes, le livre aide à relier les gestes techniques aux causes matérielles qui les justifient. C'est précisément ce qui distingue un bon traité de fabrication d'un simple recueil de recettes. La présence d'explications chimiques rend le texte plus robuste, car elle permet au lecteur d'anticiper les problèmes plutôt que de les subir. Elle favorise aussi une lecture comparée des différents supports, chacun ayant sa propre dynamique fermentaire. Le livre se situe ainsi à la frontière entre savoir empirique et compréhension rationnelle. Quatrièmement, des chapitres utiles sur les fruits à noyaux, les lies et le marc. Le livre est particulièrement apprécié pour son traitement de matière qui, dans d'autres ouvrages, reste secondaire. Les fruits à noyaux occupent une place importante, tout comme les lies et les marcs, qui sont des produits souvent issus de résidus de fabrication. Ce point est révélateur de l'orientation du traité. Il s'intéresse moins aux spiritueux prestigieux qu'à l'ensemble des ressources exploitables par la distillation. L'attention portée à ces matières montre que l'auteur souhaite donner aux lecteurs des outils concrets pour travailler avec ce qu'ils ont réellement sous la main. Les marcs et les lies exigent en effet une lecture technique différente de celle d'un jus ou d'un vin clair, parce qu'ils contiennent des composés solides, des matières en suspension et des profils aromatiques spécifiques. En incluant ces cas, Steiner élargit le champ des usages possibles et propose une approche très pragmatique. Cette ouverture rend l'ouvrage particulièrement intéressant pour ceux qui cherchent à comprendre les variantes de la fabrication plutôt qu'un seul modèle standard. En dernier lieu, un manuel ancien qui conserve une valeur pédagogique pour amateurs et professionnels. La réception du livre souligne sa clarté, sa structure et son caractère très complet, même si certains lecteurs auraient souhaité un développement plus ample de la partie consacrée à la distillation elle-même. Cette remarque n'annule pas sa valeur, mais elle précise son positionnement. C'est un ouvrage de référence qui privilégie l'ensemble du parcours technique plutôt qu'une analyse approfondie d'une seule opération. Son intérêt pour les amateurs vient de la précision de ses explications et de sa capacité à rendre accessibles des procédés traditionnels. Les professionnels, eux, peuvent y trouver un témoignage organisé sur des savoir-faire anciens, utiles pour comparer les méthodes historiques et les approches modernes. Le livre se distingue aussi par son statut d'édition patrimoniale, qui donne accès à une vision classique de la production des eaux de vie. Là où des livres contemporains misent parfois sur des conseils isolés ou sur un ton plus rapide, Steiner propose une construction méthodique, plus dense et plus cohérente. C'est cette combinaison entre tradition, précision et portée pratique qui fait sa singularité. En conclusion, ce traité s'adresse d'abord à toute personne qui veut comprendre la fabrication des eaux de vie de manière sérieuse et structurée, amateur de distillation artisanale. Lecteur curieux d'histoire des techniques, professionnel cherchant un regard sur les méthodes traditionnelles, ou encore personne intéressée par la transformation du vin, du cidre et des sous-produits agricoles. Son principal apport est de relier les matières premières, la fermentation, les réactions chimiques et la distillation dans un seul ensemble logique, ce qui aide à penser le procédé comme une succession d'étapes interdépendantes. Le lecteur y gagne une vision plus large que celle d'un simple guide pratique, car le livre met en évidence la diversité des supports utilisables et les spécificités de chacun. Ce qui le différencie de nombreux ouvrages du même genre, c'est son ancrage ancien, sa structure méthodique et son ambition de couvrir un spectre très large de produits, des vins aux mélasses en passant par les marques, l'élise et le miel. Il constitue ainsi une référence utile à la fois comme manuel technique et comme témoignage historique sur l'art de la distillation. Si vous souhaitez soutenir chez Steiner, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !